Bonjour à tous. J'aimerais aborder aujourd'hui avec vous le troisième volet de cette réflexion que je vous avais proposée sur le salut. Comme vous le savez, nos contemporains se préoccupent guère de salut. Ils semblent s'intéresser, comme nous d'ailleurs jadis, pour certains d'entre nous, je devrais même dire naguère, nous nous intéressions davantage à la santé du moteur de notre voiture ou de notre chien que de notre propre âme. Mais nous, chrétiens, savons désormais que le salut, c'est finalement la chose la plus importante, le message qui traverse toute la Bible à partir de Genèse 3 jusqu'à la fin d'Apocalypse 2. C'est notre salut qui est en question, qui est en cause. Alors nous avions vu, dans un premier temps, que Jésus était notre sauveur parce qu'il nous apportait, en tant que prophète, la parole de la vérité. Nous étudions le salut dans le cadre des trois onctions, des trois offices avec onction de l'Ancien Testament. Je veux parler de l'office prophétique, l'office sacerdotal que nous avons vu la fois d'après, et aujourd'hui l'office royal. C'est intéressant d'ailleurs que Jean-Pierre, ce matin, au début de sa présidence, ait choisi deux passages dont je vais parler précisément, mettant l'accent sur la royauté. Donc, il est évident que nous avons besoin d'un sauveur. L'homme a besoin d'un sauveur parce qu'il est perdu. Il est perdu, comme nous l'avons vu, premièrement, comme le voyageur ou la brebis égarée dans le brouillard de l'ignorance et du mensonge que distille et que nous instille à longueur de journée et de médias ce monde. Et donc Jésus est un prophète qui nous apporte cette vérité, prophète étant pris au sens étymologique du mot, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Mais c'est aussi le prophète par excellence, promis déjà du temps de Moïse, et c'est aussi en même temps la parole, nous l'avions vu la première fois. Dans un deuxième temps, nous avions vu que l'homme est perdu comme quelqu'un de souillé, quelqu'un qui par son péché a offensé le Dieu trois fois saint, et qui est donc condamné. Il est perdu comme le condamné que l'avocat n'a pas réussi à sauver, et qui va être donc condamné à mort. Et dans son office sacerdotal, nous l'avions vu, Jésus est à la fois ce sacrificateur, mais il est aussi la victime expiatoire, et il est même l'avocat qui plaide notre cause, parce qu'il a payé lui-même la rançon. Et il, par-dessus tout, il intercède auprès du Père. Alors aujourd'hui, nous allons voir un peu ce troisième office, qui est l'office royal. Car, disons-le tout de suite, Jésus est le roi. Nous sommes à l'époque des rois. Je ne sais pas si vous avez tiré les rois hier soir ou dans la semaine, mais en tout cas, je vois des couronnes un peu sur la tête de chacun de nous, parce que nous sommes un peu aussi des rois. Des rois à l'image de notre Seigneur, puisque nous sommes ses frères. Certes, Jésus était déjà le roi de l'univers. Les théologiens parlent d'un regnum potentiel, le règne de la puissance. Après étant intervenu le regnum, gracié, le règne de la grâce, et viendra le regnum glorié. Mais nous verrons que ces trois distinctions, finalement, restent actuel pour Jésus. Et en tant que souverain, c'est aussi le roi de son peuple. Jésus est donc notre roi. Alors je ferai juste une remarque à propos de ce troisième office de la royauté. Contrairement aux deux précédents, Dieu réellement ne voulait pas d'un roi pour son peuple terrestre à l'époque de l'Ancien Testament. Vous avez tous présent à l'esprit ce passage de Samuel 8 où Samuel est complètement dérouté parce que le peuple demande un roi pour être tout simplement comme les autres nations. Mais Dieu lui dit, écoute, ne te fais pas de soucis, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils veulent un roi pour ne pas avoir à m'obéir et à m'adorer. Et il leur donne, d'ailleurs Dieu leur donne, par l'intermédiaire de Samuel, des avertissements sur ce qu'allait faire ce roi. Et effectivement, l'histoire d'Israël et l'histoire des hommes en général a montré qu'un roi terrestre a tendance à abuser de ce pouvoir qui lui est donné, du fait de cet instinct de domination qui existe déjà dans l'animal. Vous savez qu'on a fait des expériences, on a mis des animaux de la même espèce dans des locaux plus ou moins vastes. D'ailleurs, l'important, c'est quand même qu'ils soient limités, qu'il y ait une barrière un jour. Eh bien, si on revient quelque temps après, on s'aperçoit que ces animaux se sont constitués dans une espèce de hiérarchie pyramidale, qui est un peu à l'image d'ailleurs de ce qu'était Babylone à l'époque, avec ses tours qui essayaient de grimper jusqu'aux cieux. Qu'est-ce qu'on trouve à la tête de cette pyramide? On trouve un mâle, en général d'ailleurs, pour ne pas dire toujours, qu'on appelle l'alpha, parce que c'est le dominant, il a réussi, par toutes sortes de coercitions vis-à-vis de ses semblables, à les tuer ou à les mater. Et puis il y a les bêtas, c'est le petit groupe qui le soutiennent, et qui sont eux-mêmes les dominants des gammas, etc., jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet grec, l'oméga. Et donc nous avons cette pyramide, et Jésus, qui n'avait peut-être pas fait ses expériences à l'époque dans son humiliation, mais qui connaissait parfaitement et la parole de Dieu et la psychologie humaine, a dit à ses disciples, vous savez, les grands, vous vous rappelez à quel propos il a dit ça? Il a dit ça au moment où la mère de Jean et Jacques, les fils de Zébédée, venaient le trouver. Et avec ses deux fils, on sent qu'ils étaient là, puisque Jésus parle au pluriel. Et elle leur dit, mais j'aimerais, Seigneur, j'aimerais tant que mes deux fils soient assis, l'un à ta droite, l'un à ta gauche. On la comprend, cette brave mère, c'est le souhait de toute mère que son fils, ses fils, se trouvent bien placés dans le royaume de Dieu. Ça fait partie de l'amour maternel, j'allais dire de l'instinct maternel, excusez-moi. Mais Jésus leur a dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Et il leur a posé un certain nombre de questions. Et il a conclu en disant, vous savez, les grands de ce monde tyrannisent les peuples, mais il n'en sera pas de même parmi vous. Et le futur qu'il emploie dans le texte grec rappelle le futur des 10 commandements, ce n'est pas un simple futur. C'est un ordre, et qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Mais au contraire, celui qui veut être le plus grand doit être votre serviteur et votre esclave. Je crois que c'est un verset que nous devons nous rappeler, ne serait-ce que cet après-midi, au moment où nous parlerons d'un futur pasteur. C'est ce profil-là que nous devons souhaiter, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus, comme l'exemple que nous a donné celui qui s'apprête à prendre sa retraite, un véritable serviteur avec son épouse au service du peuple de Dieu. Mais je ne veux pas me lancer dans des fleurs. À propos de cette royauté, j'ai fait une constatation suivante que je vous livre un peu brute de décoffrage, si je peux dire. Je n'ai pas eu le temps vraiment de l'approfondir, mais elle m'a frappé. Vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelles. Les voyelles ont été rajoutées plus tard, entre le 6 et le 12e siècle après Jésus-Christ, donc au Moyen-Âge, par les Massorètes. Mais au départ, si on prend la Torah de l'Ancien Testament, il n'y avait pas de voyelles. Donc vous n'avez que des consonnes. Et j'ai voulu essayer d'approfondir l'étymologie du mot grec, du mot hébreu, pardon, Melech, le roi. Donc j'ai eu réponse à ma question. Mais je me suis aperçu que juste après le mot roi, vient le nom propre Moloch, qui est d'ailleurs très souvent dans l'Ancien Testament prononcé Molech, justement, puisqu'il n'y avait pas ces voyelles. Et c'est les trois mêmes consonnes. Or, vous savez qui était Moloch? C'était l'idole des Ammonites. C'était un personnage, si tant est qu'il ait existé, qui était purement abominable, qui ne se rassasiait que de sacrifices humains, et des sacrifices d'enfants d'ailleurs, qui était perpétré dans la vallée de Hinnom. Et en hébreu, Gehinnom, c'est la vallée de Hinnom, qui était du temps de Jésus, un lieu abominable. C'était devenu une espèce de tas d'immondices immense, duquel s'échappait une fumée, un peu comme on voit dans nos décharges publiques. Et c'était tellement en horreur à l'époque que Jésus l'a choisi, et ses contemporains sans doute aussi, comme le lieu de la géhenne. Gehinnom, la géhenne, c'était ce lieu où les perdus, les réprouvés, pourriront toute l'éternité comme ça, dans le remords et le regret et le grincement des dents et les pleurs. Mais cela dit, nous avons quand même besoin d'un roi, il faut le savoir, mais d'un vrai roi selon Dieu. parce que nous sommes face à un ennemi qui est plus puissant que nous. Un ennemi qui nous tient prisonniers pour peu que nous lui laissions emprise sur nous. Nous sommes prisonniers à la fois du diable et de ses puissances qui sont réelles et qui existent, mais aussi nous sommes prisonniers de la loi du péché qui habite en nous et qui nous retient en esclavage. Vous connaissez tous ce passage de Romains 7. Nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire et nous ne faisons pas le bien que nous souhaiterions accomplir. Et Jésus est venu pour nous sauver, c'est-à-dire pour nous délivrer à la fois de cet ennemi, mais aussi de cet esclavage du péché. Vous savez que dans le Notre Père, nous récitons « Délivre-nous du mal ». Et certaines versions disent aussi à juste titre « Délivre-nous du malin », tout simplement parce qu'en grec, la forme du neutre est la même que la forme du masculin. Le neutre, c'est le mal, le masculin, c'est le malin. Et c'est vrai que nous sommes esclaves des deux. Donc, délivre-nous du mal et du malin. Et Jésus est mort sur la croix, nous l'avons encore chanté tout à l'heure. Il a expié nos péchés, ça c'est l'office sacerdotal, mais il a surtout triomphé de la tyrannie du diable. Le diable avait usurpé la puissance de ce monde, la direction de ce monde, et dans un immense duel, Jésus a triomphé de Satan. Je crois que la notion de victoire est profondément ancré, comme dirait le philosophe et psychologue Jung, dans notre inconscient collectif. Et d'ailleurs, l'Ancien Testament comporte de grandes victoires. Moïse contre le Pharaon, David contre le Goliath. Déjà tout enfant, notre cœur vibre quand on voit cette merveilleuse victoire. Eh bien, Jésus a remporté une victoire encore plus grande contre un ennemi beaucoup plus puissant que Pharaon et que Goliath. Colossiens 2.15 nous explique, justement à travers ces deux offices, quelle victoire il a remporté. D'abord, il a cloué à la croix l'acte d'accusation. Ça, c'est l'office sacerdotal. Nous n'avons plus de condamnation qui pèse sur nous. Et deuxièmement, il a vaincu et livré en spectacle les puissances du mal. Il les a traînées, comme faisait le général romain, qui traînait son ennemi tué, comme un cadavre, traînait sa dépouille derrière son char, à travers toute la ville, en fait, à cause de la victoire, et il traînait aussi tous les prisonniers qu'ils avaient pu faire, enchaînés comme des captifs, un long défilé de captifs. Et Jésus, comme nous l'avons lu dans ce passage d'Apocalypse 5, a été jugé digne de s'asseoir sur son trône et de lire le livre de vie et le livre de la destinée du monde. Ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir ce livre et ses sept sceaux. Et ce verset 13, et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sous la terre, nous l'avons lu, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Toutes les puissances lui sont soumises. Et cela, dès le début, si je peux dire, de son ministère, nous voyons en Luc 10, quand il envoie les 70, ils reviennent tout heureux, les démons nous sont soumis. C'est la première fois que ça leur arrivait, bien sûr, et Jésus les met un peu en garde, attention, ne vous prenez pas trop pour des super-puissants, mais il leur dit, moi-même, j'ai vu Satan qui tombait du ciel comme un éclair, et effectivement, déjà, dès le début de son règne, les choses commençaient à s'amorcer. Et donc, désormais, les puissances sont vaincues, c'est-à-dire que la volonté de Dieu, qui est bonne, qui est libératrice pour nous, peut désormais se réaliser effectivement dans notre vie. C'est cela, le royaume de Dieu. Dans le Notre Père, encore, il est dit que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et lorsque la volonté de Dieu se réalise, c'est ça le royaume de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté, que ton règne ou ton royaume, vous savez que c'est le même mot aussi en grec. Donc quand la volonté de Dieu se fait, c'est déjà le royaume de Dieu. Mais évidemment, il s'agit d'une royauté différente. Elle n'est pas de ce monde, nous le savons. Il le dira à Pilate au chapitre 18 de l'Évangile de Jean. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il eut pour trône la croix. Il eut la croix pour trône sur ce très beau cantique dont les paroles sont de Rubens Sayas. Il eut l'épine sur couronne. Nous chantons aussi dans un petit cœur un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Jésus pleurait sur Jérusalem. A-t-on jamais vu un roi qui se met à pleurer devant son peuple ? Donc c'est un royaume qui est différent. C'est un royaume qui est céleste, qui est spirituel. Et j'aime bien ce verset de Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, Paul le cite à propos du manger et du boire, parce que certains voulaient retomber dans le judaïsme et forcer les gens à ne pas manger ceci, boire cela, etc., la circoncision. Et l'apôtre Paul dit, mais écoutez, par mesure de charité, si ça doit choquer quelqu'un, alors abstenez-vous de tel aliment, etc. Mais il conclut en disant, mais vous savez, le royaume de Dieu, ça n'est pas le manger, ça n'est pas le boire. C'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Quel programme, mes amis ! Est-ce que c'est ça que nous vivons tous les jours ? Je l'espère. Donc, cette loi, ce roi que nous avons nous libère de cette loi du péché qui mène à la mort, d'abord en nous régénérant par la nouvelle naissance, il nous donne une nouvelle nature, et puis en œuvrant par son Saint-Esprit, c'est l'œuvre de ce qu'on appelle la sanctification, qui nous donne les forces voulues pour marcher selon Dieu. Et l'apôtre Jean dira dans sa première épître, il y va très fort, au chapitre 5, verset 18, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas, mais celui qui est engendré de Dieu, c'est-à-dire le Christ, le garde et le malin ne le touche pas. » Alors, nous savons par ailleurs qu'il est dit également « Celui qui croit être sans péché se trompe. » Donc, ça veut dire que le péché est toujours là en nous, il est là comme une espèce de bête féroce qui veut nous forcer à faire le mal et que l'ennemi utilise pour nous exciter, nous tenter, etc. Nous savons que Satan rôde aussi comme un lion autour de nous, rugissant pour nous séduire et essayer de nous faire chuter. Mais Satan a été vaincu par le Christ. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et si nous tenons au Seigneur Jésus, si nous revenons à lui, nous sommes assurés de demeurer à l'abri sous sa garde. Le malin ne le touche pas, dit le texte. Alors je ferai deux remarques à propos de cette libération par notre roi. Pour le moment, la régénération et la libération n'affectent que l'homme intérieur. Notre corps, et hélas aussi notre psychisme, attendent encore les effets de cette libération complète. Le Christ nous a acquis la pleine libération dans tous les domaines, à cet égard également, mais c'est pour plus tard. Et deuxièmement, je dirais que même pour notre être intérieur, nous n'avons actuellement que des arts, qu'un acompte. Et Philippiens 1,6 nous dit, mais nous avons l'assurance que le Seigneur achèvera son œuvre. Et le terme en grec, achever, ne veut pas dire terminer, finir. Au contraire, il veut dire rendre parfait, rendre parfaitement accompli pour le jour de Christ. Jésus est donc notre roi. Et j'ai été frappé, en étudiant un peu ce problème de la royauté de Christ, de voir à quel point l'image du berger était associée à celle de roi, pour probablement éviter justement ce terme un petit peu, qui pourrait devenir un petit peu coercitif pour nous, surtout parmi les humains. L'image du berger est très présente à travers l'Ancien Testament. Je pense bien sûr au psaume 23 et à d'autres passages. Et Jésus l'a reprise à son compte. Je suis le bon berger, Jean 10. Par exemple, j'ai été frappé dans le passage de Matthieu 6,1, qui reprend une citation de Michée 5,1 à propos de Bethléem. Le terme hébreu et la traduction de la Septante en grec parle d'un dominateur, d'un chef, d'un roi. Alors que Matthieu, lui, emploie d'ailleurs deux termes. Il emploie un premier terme et puis un verbe à la suite. Et ces deux termes sont l'image du berger. Le terme pour le chef, en fait, évoque plutôt un leader. Il est formé sur un verbe, le verbe ago, qui veut dire conduire, et donc c'est un conducteur, un chef spirituel. Et ensuite, il emploie un verbe qui n'est pas du tout dominer, régner, commander, diriger, c'est le verbe du berger, c'est-à-dire faire paître le troupeau, avec d'ailleurs aussi un aspect de soin, de thérapeutique. Et j'aime bien ce verset d'Hébreux 13, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Et l'apôtre Pierre, à qui Jésus, vous le savez, avait dit à 3 reprises, paix mes brebis, dira dans sa première épître au chapitre 2, verset 25, car vous étiez comme des brebis égarées, errantes, mais maintenant vous êtes retournés. Et le verbe qu'il emploie, ce n'est pas simplement retourner comme on retourne à un endroit qu'on a déjà visité. C'est le terme de la conversion. On devrait, d'ailleurs, les traductions fidèles devraient dire, je n'ai pas eu le temps de vérifier chez Alfred Kuhn, mais vous vous êtes convertis pour vous tourner vers le berger et le gardien de vos âmes. Et aux anciens, un peu plus loin, au chapitre 5, il dira « Faites paître le troupeau » avec un très joli petit mot qui comporte un petit diminutif, parce qu'en grec, il existe aussi des petits diminutifs très sympathiques. « Proimnion », ce « nion », c'est un petit diminutif, comme on dirait nous en français, ça n'existe pas, mais un troupelet, vous savez, un tout petit troupeau, mais c'est à la fois diminutif, mais surtout affectif de Dieu. Et lorsque votre souverain pasteur apparaîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Et pour ce mot de souverain pasteur, je crois que Pierre a forgé un nom qui n'existait pas, qui n'apparaît pas dans le grec ancien, qui veut dire le chef des bergers, effectivement, archipoimen, pour ceux qui connaissent le grec. Mais quand il s'agit de bergers, il ne faudrait pas penser à l'image un peu bucolique du berger tel que nous le voyons aujourd'hui, un petit peu hippie d'ailleurs aussi, qui doit fumer un peu un joint en cachette dans ses pâturages. Non, le berger de l'Ancien Testament, c'était un lutteur, c'était quelqu'un qui avait à lutter contre des prédateurs, contre des loups, contre toutes sortes d'ennemis, des voisins qui venaient chipper les moutons la nuit, etc. Et d'ailleurs, très vite, m'est apparu dans l'étude de ce berger, à travers une note d'ailleurs que j'ai trouvée dans la Colombe, et dont je remercie les éditeurs de la Colombe, à propos du verbe hébreu yatsa qui veut dire sortir. Et il était dit dans cette note, je crois que c'est dans 1 Samuel 18, que le verbe sortir avait un sens militaire, c'est-à-dire partir en guerre. Et il est souvent associé au verbe rentrer qui veut dire rentrer à la caserne victorieux, sain et sauf. Et cette juxtaposition des verbes entrer et sortir, par une note de certains commentateurs que j'ai trouvé par la suite, désigne les victoires d'un chef et d'un général. Par exemple, ça apparaît dès le livre du Deutéronome, dès le Pentateuque, dès le livre des Nombres 27, Moïse parla à l'Éternel et dit, écoutez bien ça, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur la communauté un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux. Non seulement ça, mais en plus, qui entraîne le peuple à sa suite, et parce que le texte dit qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que la communauté de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous voyez, donc, c'est dès le livre des Nombres, il était question d'un berger qui allait prendre les choses en main et aider son peuple. Et il est dit de David, d'ailleurs, il entrait et sortait à la tête du peuple, et au verset suivant, il réussissait dans ses entreprises. Donc c'est un berger qui part avec son troupeau, qui le guide et qui le défend. Et par exemple, en 1 Samuel 29, on revoit David qui s'était, comme vous le savez, réfugié parmi les Philistins, et à un moment, le roi Achish sentait que sa présence parmi les ennemis, disons, qui étaient les Philistins, lui posait des problèmes. Alors il lui dit, écoute, j'ai beaucoup d'estime pour toi, tu es un gars très bien, mais tu commences à me à me poser des problèmes, donc il va falloir que tu nous quittes. Et il lui dit, tu es un homme qui aime sortir et rentrer avec l'armée. C'était un compliment qu'il lui faisait, tu es un chef valeureux et victorieux. Et j'aimerais attirer votre attention sur deux passages que, là encore, la traduction a rendu assez mal, à mon sens, où ces deux verbes apparaissent et qu'on a tendance à prendre un peu comme des psaumes pour le, ou des passages pour le voyageur. Je pense, par exemple, à Deutéronome 28 aussi, où Dieu dit « Tu seras béni à ton départ et ton arrivée ». Ou le psaume 121, ce fameux psaume qui est très beau par ailleurs, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours me vient de l'Éternel », et qui termine en disant « Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée ». Alors bien sûr, on a l'habitude de lire ce psaume au moment où on part en vacances ou en voyage aux quatre coins de la terre, et on n'a pas tort, c'est pas mauvais en soi de demander au Seigneur de nous bénir. Mais il s'agit quand même, je crois, de quelque chose de bien plus important que de nous garder dans l'avion ou sur les routes. Il s'agit, là encore, de victoire. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours d'ailleurs. Ça veut dire qu'il te donnera la victoire, et une victoire qui rejaillira jusque dans l'éternité. Jésus, j'ai retrouvé encore ces deux fameux verbes, vous allez dire, je suis un peu long sur le sujet, mais c'est un sujet qui me passionne, parce que je le découvre, alors je vous fais part de mes découvertes. Dans Jean 10, vous savez qu'au début du chapitre, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Et puis soudain, au verset 9, il commence à dire « Je suis la porte des brebis ». Alors, on est un peu surpris. Est-ce qu'il est le berger? Est-ce qu'il est la porte? Vous savez, pour concilier les deux, si je peux dire, que le berger avait l'habitude de se coucher en travers de l'enclos des brebis, c'est un enclos assez rudimentaire, des genres de barrières, pour protéger, peut-être pour empêcher les brebis, il y en a toujours un peu qui ont envie d'aller se balader la nuit, mais surtout pour empêcher aussi l'entrée d'éventuels prédateurs. Et Jésus dit, moi je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, donc passe par cette porte, il sera sauvé, c'est déjà un point important, mais il est dit aussi, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Et bien là encore, je crois que c'est pas simplement, il ne s'agit pas simplement pour les brebis d'aller sortir, brouter un peu, puis rentrer, digérer, ou ce que font les brebis, là, je ne me rappelle plus le terme, elles n'ont pas le même système que nous, mais il s'agit là encore de victoire. Jésus nous dit, si vous réfugiez en moi, eh bien vous serez victorieux à la fois contre l'ennemi et contre ce péché qui est en vous. Alors, donc, je dirais que nous sommes, de même que nous l'avons vu, nous sommes des prophètes, nous sommes une nation de sacrificateurs, nous sommes aussi des rois. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes fils de Dieu et frères et sœurs de roi. Nous avons été glorifiés et nous avons part à sa gloire. Mais cette royauté, je crois, doit se traduire pour nous par une noblesse de cœur. Vous savez qu'il existe un adage « noblesse oblige » que les Anglais ont, et les Américains, je pense aussi, ont reprise tout à fait dans les mêmes termes. « Noblesse oblige », disent les Anglais. Ça veut dire qu'en tant que fils de roi, nous avons à tenir un certain rang. Nous avons en nous peut-être du sang bleu, je ne sais pas. Je ne me suis pas coupé depuis quelque temps, mais peut-être nous avons déjà ce sang bleu en nous. Et il faut savoir que chaque fois que nous péchons, et ça nous arrive hélas, nous ne rendons pas hommage à cet office royal dont nous sommes un petit peu et même beaucoup participants. Nous faisons ce que le proverbe 26 nous dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa stupidité. Et ce passage est repris par 2 Pierre au chapitre 2. Il est, en parlant de chrétiens qu'on appelle rétrograde par ce terme qui serait d'ailleurs à étudier, à approfondir, mais disons un chrétien qui retombe sous une forme ou une autre de péché, il leur est arrivé ce que dit le proverbe, et il pensait à ce proverbe-là, le chien est retourné à son vomi, quand on y songe, c'est quand même pas très ragoûtant, et la truie, à peine lavée, va se vautrer dans le bourbier. Eh bien, sachons que en tant que roi et reine, nous n'avons pas le droit de retourner dans le péché. Alors demandons au Seigneur, prions, veillons sans cesse pour qu'il en soit ainsi. Alors, j'aimerais maintenant me livrer à une petite récapitulation, un petit récapitulatif sur ces trois offices. Je crois que notre vie chrétienne doit être équilibrée, et en particulier par rapport à ces trois offices. Attention à ne pas négliger, ou au contraire à ne pas trop privilégier tel ou tel aspect, tel ou tel office, parce que nous le ferons au détriment des autres. Si par exemple, je crois déceler dans ces trois offices aussi trois aspects de notre vie chrétienne, l'un qui consiste, et je pense à l'office prophétique, qui appartient plutôt à l'aspect intelligence de notre vie chrétienne. Je crois que l'étude de la Bible doit faire partie intégrante et de plus en plus de notre vie chrétienne. Mais attention à ne pas tomber dans un excès, parce qu'un excès de rationalisme, eh bien, ça peut entraîner toutes sortes de formes de libéralisme ou de légalisme au contraire. Et si on n'étudie pas assez la Bible, eh bien, on va tomber dans le miraculeux, la recherche systématique du spectaculaire. Si nous exagérons le côté sacerdotal qui fait, reconnaissons-le, aussi appel à nos émotions. Si vous avez vu le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, on sent que dans ce film, l'accent est très fortement mis sur l'aspect émotionnel des souffrances du Christ. Par exemple, la flagellation avec force hémoglobine dure une vingtaine de minutes. Et je pense à travers cela à toutes ces processions que l'on voit dans certaines régions de Sicile, par exemple, où les pèlerins se frappent, se flagellent jusqu'à saigner. Donc si nous accentuons cet aspect émotionnel au détriment des deux autres, nous risquons de tomber dans cette forme-là un peu mystique et aussi dans le désengagement du chrétien vis-à-vis de la société, etc. Si on accentue également de façon exagérée le rôle royal, on risque de se prendre justement pour des rois et vouloir régner. Personnellement, au terme de régner, je préfère le mot qui n'existe pas malheureusement dans la langue française, mais que je me suis forgé pour mon utilisation personnelle, si vous permettez, je vous le livre encore brut de décoffrage. Je préfère le mot royaumé. Parce que régner, ça veut dire que, et c'est un peu ce que Jésus sentait et reprochait à travers ses disciples. On le voit réapparaître en acte 1, quand c'est, Seigneur, que tu rétabliras le règne d'Israël, enfin un peuple dont nous pourrons être fiers, qui sera libéré des Romains, et que tout le monde entier admirera, et devant lequel il viendra se prosterner. Mais Jésus, il ne répond pas sur ce thème-là. Et leur dit, écoutez ça, si pour autant ça doit un jour exister sur cette terre, c'est Dieu seul qui connaît le temps et le moment. Quant à vous, vous êtes mes disciples, et vous avez vu et vous allez voir ce que le monde va me faire à moi. Alors s'il me fait ça à moi, alors imaginez-vous ce que le monde va vous faire à vous. Alors pour l'instant, voici quelle est ma mission. Vous allez recevoir dans peu de temps le Saint-Esprit descendant sur vous, une puissance. Ce n'est pas simplement une influence, c'est le Saint-Esprit qui viendra en vous et qui vous donnera la force d'être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Non pas à régner, à vouloir imposer des valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes se sont imposées, vous avez vu dans nos pays qui ont plus ou moins accepté avec beaucoup de difficultés les valeurs chrétiennes, eh bien nous avons une forme de gouvernement, je dirais, qui se rapproche de ce que Dieu souhaiterait. Nous allons vivre cet après-midi l'assemblée de l'assemblée, l'ecclésia de l'assemblée, de l'ecclésia, l'assemblée générale de notre assemblée. Et je crois, il ne faut pas considérer que cette activité de cet après-midi sera moins spirituelle que celle de ce matin. Je crois que les deux ont la même valeur devant Dieu. Parce que c'est là, dans des actes, des décisions, des discussions, que se révélera cet amour fraternel entre nous, que se révélera le plan de Dieu. Si nous sommes unis, si vraiment toutes les règles du jeu ont été respectées, l'Assemblée va adopter la décision que le Saint-Esprit aura prévue. J'ai été frappé encore une fois ce matin de voir que le Saint-Esprit avait préparé Jean-Pierre, qui pourtant nous avait dit « Oh, je ne suis pas très en forme, j'espère ne pas trahir de secret ». Eh bien, merveilleusement, le Seigneur l'a rétabli et il lui a donné deux passages qui étaient en rapport avec cette royauté. Je remercie le Saint-Esprit à travers Jean-Pierre. Donc, je crois que nous sommes appelés à royaumer. Royaumer, ça veut dire que nous faisons partie du royaume, mais nous sommes sérieux, mais nous ne nous prenons pas au sérieux. Nous sommes les serviteurs, les esclaves de notre Seigneur. Il peut nous envoyer où il veut, il peut nous demander ce qu'il voudra. Et je crois que si nous respectons cette parfaite harmonie entre ces trois offices, rappelons-nous que nous sommes des rois, mais aussi nous sommes des sacrificateurs. Et nous sommes aussi des prophètes qui sommes chargés d'annoncer la parole de Dieu autour de nous, avec beaucoup d'humilité, mais avec assurance et avec un esprit de victoire. Je terminerai par cette notion. En réalité, ces trois offices sont des offices qu'on pourrait appeler de délégation. Nous en avons reçu la délégation de la part du Seigneur, et elle a une seule et même visée pratique, outre évidemment la conversion du maximum de nos contemporains, de nos semblables, c'est notre sanctification. Dieu nous utilise en nous sanctifiant en même temps, et il nous sanctifie en nous utilisant. Par elle, par cette sanctification, nous sommes transformés chaque jour pour être semblables au Seigneur, tout en sachant d'avance que cette œuvre sera parfaite, achevée, arrivée à pleine maturité, quand nous le verrons tel qu'il est. Je vous propose de prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui nous guide comme une boussole sur le chemin, sur la direction qui nous mène vers toi, vers le Père. Et nous te remercions parce que cette parole est devenue chair et que en Jésus-Christ nous avons l'exemple parfait de cette parfaite harmonie entre ces trois offices, ces trois ministères. Celui qui a été le prophète parfait, le prêtre, le grand prêtre parfait et qui est maintenant le roi de gloire, le roi parfait. Nous te remercions parce que par le Saint-Esprit, tu nous donnes cette vision de ces trois offices et tu nous donnes aussi la possibilité de les accomplir selon ta volonté et selon ton plan. Nous voulons lever les yeux vers ce roi, vers ce sauveur et intercéder pour qu'il ait toujours la première place, la place royale en nous et qu'il nous aide à accomplir cette mission que tu nous as confiée pour le temps de notre vie terrestre. C'est là notre souhait le plus cher, le plus profond, le plus ardent, et nous te demandons de nous pardonner toutes nos faiblesses et de rétablir toujours en nous ce parfait équilibre entre ces trois offices. Au nom de celui qui les a accomplis et qui continue de les accomplir parfaitement. Amen.